Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Partir en mission humanitaire, ça fait bien sur son CV, mais si cette mission est au service de l'évangélisation, c'est beaucoup mieux. Qu'ont vécu ceux qui en reviennent? Comment rebondissent-ils au retour? Qu'on soit célibataire, marieux, religieuse ou retraité, que l'on ait 2 mois à donner ou 2 ans, la mission humanitaire est faite pour tous. Les invités autour de ce plateau sont là pour en témoigner. Marie de Langalerie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie avec votre mari Benoît à Madagascar avec les missions étrangères de Paris.
Oui, exactement.
Vous êtes partie combien de temps?
On est partie 4 mois.
4 mois. À vos côtés, Amaya Koutan, vous êtes partie avec cette même association. À quel endroit?
Moi, je suis partie au Népal.
Au Népal, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, c'est ça. Oui.
Et pendant 4 mois, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Voilà. Pierre-Julien, vous êtes retraité et vous êtes parti avec la délégation, la DCC, donc l'ONG catholique de développement, délégation catholique pour la coopération.
Oui.
Bonjour. Vous êtes parti dans quel pays?
Alors j'ai fait une première mission à Brazzaville, au Congo. Ensuite, une mission au Togo, à Sokodé, au centre du Congo et du Togo, pardon. Et ensuite, une dernière mission au Tchad, à Mongo, au centre du Tchad.
Et donc, des missions de différentes durées aussi, hein?
Oui, alors 2 ans au Congo, 5 mois au Togo. Et ensuite, j'ai fait 1 an au Tchad. Et j'ai encore des liens avec l'ONG où je travaillais.
Bon, et vous allez peut-être repartir alors?
Ben, j'espère, oui, si à l'occasion, si on a un financement pour un projet en cours, je repartirai, voilà. Mais pas pour une durée aussi longue.
Bon, vous n'avez pas dit votre dernier mot, en tout cas. Avec cette même ONG catholique de développement, Sœur Pascale.
Bonjour.
Bonjour. Donc, vous coordonnez pour le sud de la France les volontaires, soit qui viennent de l'étranger et qui viennent faire un volontariat en France, soit ceux qui partent de notre région pour aller à l'étranger. Et vous êtes chargée particulièrement de missions pour le Maroc.
Oui, c'est cela. Parce que j'ai vécu 9 ans au Maroc en tant que religieuse. Et du coup, j'étais sur place partenaire. Donc, j'accueillais des volontaires qui venaient, des volontaires de solidarité internationale qui venaient mettre leurs compétences au service d'un partenaire au Maroc.
Mmh. Et enfin, dernier tour de table, Philippe Ozina et Sœur Dolorès, on vous connaît puisque vous faites partie de la mission universelle de l'Église. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous faites le lien entre toutes ces associations humanitaires catholiques et vous nous parlerez à la fin de cette émission de la journée du 24 mai que vous organisez, qui est consacrée au volontariat sans frontières.
Tout à fait.
Alors, peut-être, on va garder cette journée, cette présentation de cette journée pour la fin, quand même 2 mots sur cette mission universelle qui fait le lien avec toutes ces associations de volontariat, de mission humanitaire. Philippe.
Eh bien voilà, donc l'Église est universelle et missionnaire par nature. Et le volontaire missionnaire, eh bien, vit concrètement cette Église sans frontières. Il est acteur de la mission universelle, envoyé pour témoigner de l'amour de Dieu au-delà des frontières, frontières culturelles, sociales ou géographiques. En partant, il incarne la solidarité de l'Église universelle avec toutes les communautés chrétiennes, surtout les plus fragiles.
Voilà, en tout cas, des mots-clés, hein, témoigner de l'amour de Dieu et puis incarner l'universalité de l'Église. Sœur Dolorès, vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon pour cette petite présentation?
Nous, très bien. C'est une grande ouverte à tous, sans distinction. Alors, elle est universelle. Le Christ envoie ses disciples vers tous les peuples. Alors, tout baptisé est missionnaire, ici et jusqu'aux frontières du monde.
Et tout baptisé et missionnaire, ça veut dire que les personnes qui sont autour de ce plateau, qui sont parties en mission, ne sont pas les seules et chacun est appelé à être à partir en mission. Alors, on va commencer par la mission humanitaire que vous avez vécue, Pierre, Julien, Amaya Koutan et Marie de Langalerie. Comment vous vous êtes décidé à partir en mission humanitaire? Qu'est-ce qui veut commencer? Pierre, Julien.
Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'étais déjà en Afrique à ce moment-là. J'étais directeur du Centre culturel français à Brazza. Et j'étais parti faire une petite retraite d'une semaine dans un monastère dans la Bouenza, à mi-chemin entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et là, j'ai rencontré un vieux moine qui venait de l'abbaye de la Pierre qui vire, parce que c'est une abbaye qui avait fondé l'abbaye de Buanza. Puis j'ai échangé avec lui, puis je lui avais fait part de mon souhait de rester le plus longtemps possible en Afrique. Et donc, il m'a dit « Ah, mais il y a la DCC ». Et c'est parti de là.
Et c'est parti de là, et ça vous a donné envie de donner oui, votre temps.
Voilà, parce qu'après je suis parti, j'ai été directeur du Centre culturel franco-nigérien Niamey-Zinder pendant 3 ans. Puis à la retraite, ben voilà, je me suis souvenu de ce moine et de ce qu'il m'avait dit. Et puis j'ai contacté la DCC. Et voilà.
Et c'est comme ça que vous êtes partie. Marie, vous êtes partie avec votre mari Benoît, vous étiez jeune mariée.
Oui, c'est ça, c'était après 6 mois de mariage. Nous, on en parlait depuis longtemps, depuis le début de nos fiançailles. Et voilà, pour nous, c'était un peu une évidence de partir après notre mariage. Moi, j'étais déjà partie en stage infirmier humanitaire au Vietnam. Et je m'étais dit qu'un jour, je repartirais avec mon mari.
Et pourquoi c'était une évidence pour vous? Vous vouliez quoi? Vous vouliez fonder votre couple? Vous vouliez vivre une expérience différente pour commencer votre
oui,
mariage?
Oui, voilà, c'est ça. On se disait que ça serait vraiment une expérience enrichissante en tout début de mariage, même pour nous rapprocher, pour vivre dans d'autres contextes plus difficiles. Et voilà, on se disait que ça pouvait être que bénéfique, ça pouvait nous souder. Et voilà, et il y avait aussi cette notion de évangélisation, ça nous parlait beaucoup. Et donc voilà, pour nous c'était vraiment évident de partir après notre mariage, et voilà, il y en est très content.
Amaya, pourquoi êtes-vous partie pendant cette mission avec les missions étrangères de Paris pendant 4 mois, donc au Népal?
C'est ça, alors moi je venais d'être diplômée et j'avais envie de faire un peu une pause, prendre un peu du temps, et je voulais voyager aussi. Et j'avais entendu parler pas mal de missions humanitaires, donc je me suis rapprochée un petit peu des différents organismes. Et les missions étrangères de Paris, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de partir avec eux, voilà, 4 mois, donc au Népal.
Vous aviez envie de vivre quoi avant votre départ?
Avant mon départ, de découvrir une nouvelle culture et pouvoir donner un peu de son temps, voyager un peu plus utilement, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et voilà, donc je me suis dit, allez, c'est parti, on va bien voir ce que ce sera.
Sœur Pascale, vous accompagnez donc les volontaires, hein, et vous êtes finalement en première ligne avec ces personnes qui veulent partir, qui veulent donner de leur temps, comme Pierre-Julien l'a dit, il s'est rapproché de la DCC. Comment vous accueillez des demandes comme ça?
Alors, on prend vraiment le temps d'accompagner la demande, parce que vous parlez d'humanitaire, moi je parlerais plutôt de solidarité internationale, c'est pas tout à fait la
même
chose.
Qu'est-ce que ça change,
hein? L'humanitaire, c'est répondre à l'urgence. Nous, on n'est pas dans l'urgence. On est dans la solidarité, on est dans le long terme, on est dans le développement intégral. Pour nous, c'est vraiment vivre la culture de la rencontre telle qu'en a parlé le pape François, telle que l'a évoqué le pape François. C'est vraiment de cet ordre-là. Et donc du coup, nos personnes qui demandent à partir, alors c'est on dit 21, 75 ans, les personnes qui demandent à partir. Avec la DCC, c'est plutôt des départs longs. Voilà, Amalia, Marie disent qu'elles sont parties 4 mois. Nous, c'est plutôt 1 an minimum, voire 1 an à 2 ans. On aime bien partir 2 ans parce qu'un an, on commence à peine à découvrir. Mmh. Et puis, finalement, on renouvelle jusqu'à une deuxième année. On peut aller jusqu'à 6 ans. La loi nous autorise jusqu'à 6 ans. Mais on peut faire plusieurs missions. Hein. Et donc, on prend le temps d'accompagner la personne qui désire partir, pour voir comment est fondé son désir de partir. Est-ce que c'est pas faire du volontourisme, qui est une catastrophe, hein? Est-ce que c'est pourquoi est-ce que je veux partir? Est-ce que je pars parce que je suis au chômage, j'arrive pas à trouver ma vie, et ou j'ai une rupture amoureuse? Parce que dans ce cas-là, c'est pas forcément très bien fondé. Ou est-ce que c'est au contraire, comme l'a dit Marie, on veut fonder notre couple sur quelque chose de solide, sur le roc, et on est prêt à partir et à nous engager. On a des familles qui partent avec des enfants, on a beaucoup de célibataires, on a des retraités, on a des jeunes pros. Enfin, on a tout type de personnes. Mais comment est-ce que je fonde? Comment est-ce que j'ai pensé mon départ? Parce qu'il faut bien penser le départ pour bien vivre le volontariat sur toute la durée et bien rentrer surtout aussi.
Oui, ça, on va en parler du retour, parce que ce n'est pas si évident que ça d'atterrir après une mission humanitaire. Quelle préparation vous avez suivi, Amaya et Marie, avec les missions étrangères de Paris avant de partir?
Alors, on a eu une semaine de formation à Paris, dans la maison des MEP. Voilà, une semaine complète pour une préparation théorique et spirituelle aussi. Et voilà, et après on avait tous des responsables de mission avec qui on pouvait échanger, poser toutes les questions, Et on avait aussi la possibilité d'aller voir un psychologue pour bien se préparer à partir.
Et justement, faire attention à ce que disait Sœur Pascale de ne pas partir voilà, en mission par dépit.
Pour les bonnes raisons. Et donc voilà, une semaine complète de formation et après, on était tous envoyés en mission dans nos différents pays.
Est-ce que pour vous, Pierre-Julien, vous avez eu une formation aussi avant de partir ou le fait que vous connaissiez finalement les pays suffisait?
Non, pas tout à fait, puisque tout d'abord, j'ai eu un week-end de sélection. Alors, j'ai été agréablement étonné parce que je découvrais la DCC. Et donc, y a toute une procédure assez longue. Donc, un week-end de sélection, à l'issue duquel, ma candidature a été retenue. Ensuite, alors, ils m'ont fait grâce d'un week-end suivant qui concernait la formation à la différence culturelle.
Oui, ça, vous connaissiez, évidemment.
Et puis, ensuite, on a un stage de préparation au départ qui dure 9 jours. Et j'avoue qu'en partant à ce stage, je me disais, 9 jours, c'est quand même un peu long. Et en fait, non, pas du tout, ça passe très très bien. Et c'est extrêmement utile. En outre, ça nous permet de connaître tous les partants, quoi, les volontaires qui vont partir cette année-là. Donc il y a déjà une espèce de groupe de solidarité qui se constitue. Et donc, je dirais que c'est très pro comme formation de départ, quoi. On n'est pas lâché comme ça dans la nature, hein, pas du tout.
Oui. Amaya, dans la formation que vous avez reçue avant de partir ou dans l'accompagnement, qu'est-ce que vous avez découvert de particulier ?
Déjà, c'était très intéressant parce qu'on a eu beaucoup de... Enfin, sur tous les pays où on était envoyés en mission, ils nous ont beaucoup expliqué tout ce qui était important à savoir, autant dans la culture, dans tout ça. Et puis, c'était chouette aussi de rencontrer d'autres volontaires qui voulaient aussi partir et confronter un petit peu tous nos envies de partir et de se retrouver entre volontaires, c'est vrai que c'était chouette.
Oui, c'était important en tout cas. Et puis, on voit qu'on fait partie d'un corps, en fait, hein, quand on part avec les autres. Mmh. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de vos missions, puisque Pierre-Julien, vous êtes parti à 3 reprises. Le temps va nous manquer de tout détailler, mais j'aimerais bien quand même que vous expliquiez pourquoi vous êtes parti, on l'a dit, mais ce que vous avez fait sur place. Et donc, je vous redonne la parole à Maya pour que vous expliquiez ce que vous avez fait au Népal pendant 4 mois. Parce que 4 mois, ça paraît court, mais finalement, c'était utile quand même.
Oui.
Heureusement.
Alors moi, j'ai été envoyée pour être professeure d'anglais dans un petit village dans les montagnes du Népal. Et donc, on était 3 volontaires envoyés dans ce village, tous les 3 professeurs d'anglais. Et donc, il y avait 2 écoles, une qui était plus primaire et collège, et une qui était uniquement primaire. Donc moi, j'étais dans l'école primaire qui était en bas du village. Et donc, le cœur de ma mission, c'était vraiment de donner des cours d'anglais. Après, on avait aussi un côté un peu plus spirituel avec les pères du village. Et donc, on avait une messe quotidienne avec eux. Et dans le catéchisme aussi, on pouvait participer à toutes les sorties qu'ils faisaient avec les enfants. Les pères étaient vraiment très dévoués et ils mettaient en place beaucoup de choses. Donc, c'était assez intéressant, tout ça. Donc, c'était ma mission.
Mmh. Marie, qu'est-ce que vous avez fait avec votre mari, Benoît ?
Alors, nous, on a été envoyés dans un tout petit village de Brousse, dans le nord de Madagascar. C'était une ouverture de mission. Donc, moi, j'étais infirmière dans le dispensaire du village. Et Benoît, il donnait des cours de français pour les collégiens. C'était un petit collège dans le village. Mmh. Voilà, ça, c'était le cœur de notre mission. Après, on a aussi été envoyés là-bas pour témoigner du mariage. Parce que c'est une culture, enfin en tout cas dans le village où on était, c'est une culture où les gens ne se marient pas du tout. Et le prêtre MEP qui nous accueillait, qui habitait à côté du village, pour lui c'était vraiment important d'ouvrir une mission ici et de montrer à ce village qu'on pouvait être heureux en étant marié et en ayant... qu'une personne dans notre vie. Et voilà, donc ça, c'était vraiment important pour le prêtre qui nous accueillait. Donc ça a été une de nos missions aussi. Après, c'était une mission où on témoignait juste par le fait de vivre... Enfin, voilà.
Par votre quotidien,
par notre quotidien dans le village. Et voilà, et par notre joie, c'est comme ça qu'on témoignait du mariage.
Oui, c'est ça. Pierre-Julien, donc dans ces 3 missions au Congo, au Togo et au Tchad, de quoi vous étiez chargé particulièrement ?
Alors au Congo, je travaillais à l'école spéciale qui avait été fondée par Sœur Marguerite et qui était destinée à accueillir les enfants de familles très défavorisées parce que l'enseignement, l'inscription était gratuite. Et donc on avait, il y avait pas loin de 1000 enfants sur 3 sites. Moi j'étais sur le site central et j'étais chargé d'animer une coopérative qui regroupait différents ateliers de formation professionnelle qui venaient en complément de la formation standard. Ça correspondait au niveau du primaire. Mais il y avait des adolescents, puisqu'il y avait des enfants qui avaient été en rupture de scolarité et qui revenaient.
Ça, il rattrapait le retard, là.
Oui, et du coup, les classes, c'était pas le CP, ni, il y avait d'autres dénominations pour ne pas traumatiser ceux qui revenaient et ceux qui reprenaient l'école. Et donc, ça a été extrêmement riche. Notamment, il y avait des ateliers très variés, couture, cuisine, maraîchage. J'avoue que c'était pas trop mon domaine. En revanche, il y avait aussi menuiserie, soudure. Et là, j'avais jamais exercé, mais j'avais des idées. Je m'intéresse au design. Et avec les équipes, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire, moi, j'apportais certaines choses et eux, ils m'apportaient énormément. Ils m'ont beaucoup appris, quoi. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Mm-hmm. Je me suis régalé pendant 2 ans à faire ça, oui.
Et Marie parlait de cette notion d'évangélisation. Comment vous avez vécu cette dimension évangélisatrice dans vos 3 missions ?
Bien, bon, alors, à l'école spéciale, c'était une école qui était dirigée par Sœur Brigitte.
Oui.
Il y avait
donc,
tout
y avait
un environnement,
catholique.
Voilà, bon. Ceci dit, moi, je pense que ça m'a certainement plus apporté à moi que moi aux autres. Voilà. Et puis, le Congo-Brazza aussi. Hein, mais c'était intéressant parce qu'il y avait quand même beaucoup de musulmans au Congo. Tous les commerçants à Brazza, c'est musulmans. C'est des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, le Westaf, comme disent là-bas. Donc, vivre ça aussi, c'était intéressant. Et puis ensuite, au Togo, alors là, j'étais immergé aussi, puisque c'était une communauté assomptionniste, mais où j'ai retrouvé des prêtres congolais, mais eux de la RDC, de l'Est de la RDC. Et ça, c'était une riche expérience, puisque c'était ils formaient des... Comment on appelle ça? Ceux qui débutent dans la vie religieuse.
Des
oui, enfin,
ou
en quelque sorte.
Ou des catéchumènes.
Non. Qui s'engagent à être assomptionnistes.
Des
novices, oui, c'est ça. Et donc, j'assistais à tous les offices. Et bon, moi, je me suis régalé parce que ça me convient tout à fait. Quoi. Uh-huh. C'était très intéressant. Et parallèlement, c'était aussi la ville togolaise où il y a la plus forte communauté musulmane. D'ailleurs, il y avait eu des heurts parce que la police... Enfin bon, il y a une histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était également intéressant. Et enfin, au Tchad, là, j'étais dans une ONG musulmane, enfin parce que le Tchad, c'est un pays musulman. Mais il y a le vicariat, puisqu'il y avait l'évêque de toute cette zone qui était là. Il y avait une communauté jésuite, il y avait 2 pères jésuites, et puis une paroisse qui était animée par des prêtres italiens. Et là, ça m'a vraiment impressionné parce qu'il y avait vraiment une tolérance des musulmans par rapport aux catholiques qui m'a stupéfait. Et quand je vois comment ça se passe aujourd'hui, tout ce qu'on en France, les discours et l'atmosphère qu'il y a en France, eh bien, je me dis que franchement, on aurait des exemples à prendre. Et paradoxalement, au Tchad, et en voyant comment ces musulmans là-bas nous considère.
En tout cas, vous en êtes le témoin aujourd'hui.
Ah oui.
Et alors, il est déjà temps de faire une pause. Vous nous avez présenté, Marie de Langalerie, à Maya Coutan, Pierre-Julien, les raisons de votre départ en mission humanitaire et ce que vous avez fait. Je vous propose que nous retrouvions juste après pour voir les fruits et les difficultés de votre mission et puis évidemment comment vous êtes revenu. Ça, c'est important. Et ce sera aussi la thématique de la journée du 24 mai dont nous parlerons avec Sœur Dolorès et Philippe Osina. Nous écoutons Dabali, interprété par Vianney.
J'ai vu des terres brûler sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, mais l'on s'est compris. Dabaliku sabata, debora anio davita. Dabaliku sabata, deba orbeka. Des ciels ardents et la fumée des volcans pour seul nuage. J'ai vu des ciels d'ébène et soudain dans la nuit les yeux de Dabali. Dabali Kusabata, Debora Nio.
Isabelle Duché.
Cette émission Vivante Église est consacrée à la mission humanitaire et au retour de celle-ci, nous sommes avec Sœur Dolorès et Philippe Osina pour la mission universelle du diocèse de Toulouse, Marie de Langalerie et Amaya Coutan qui sont partis avec les missions étrangères de Paris, Pierre Julien qui est parti avec la DCC, la délégation pour la coopération catholique, ou plutôt catholique pour la coopération, pardon, et puis Sœur Pascale Bonnef qui est à cette DCC et qui a accompagné les volontaires. On va reprendre cette émission avec vous, Sœur Pascal, qu'est-ce que vous diriez, puisque vous accompagnez les volontaires, qu'est-ce que vous diriez de la découverte ou de l'approfondissement de leur foi dans leur mission ?
Alors, tous les volontaires qui partent font un beau chemin de foi, tous sans exception. C'est vrai qu'à la DCC, on accueille très largement, même des jeunes, parce que sont surtout des jeunes qui partent, mais ce sont aussi des jeunes retraités. Hein. Et donc, toute personne on accueille tout le monde, quelle que soit leur foi. C'est-à-dire qu'on accueille des non-baptisés. Et à condition qu'ils soient ouverts, parce qu'ils sont quand même envoyés par l'Église, puisque la délégation catholique par la coopération a été fondée par les évêques de France et par les religieux, la conférence des religieux religieuses.
Et donc, souvent, sur place, il y a un lien avec une communauté religieuse ?
Ou pas.
Ou pas forcément.
Ou pas forcément. D'accord. Mais on demande aux personnes qui partent quel est leur lien à l'Église. S'ils nous disent on a un lien fort à l'Église, on veut pratiquer notre foi, on les met en lien avec un partenaire dans lequel ils pourront pratiquer leur foi et ils pourront vivre ce lien à l'Église qui est important pour eux. S'ils nous disent j'ai aucun lien à l'Église, mais je suis ouvert, dans ce cas-là, ok, vous pouvez partir. Et là, on a un couple, par exemple, actuellement, à Kenitra, un jeune couple, ils ne sont pas chrétiens. Ils ont dit ils n'ont aucun lien à l'Église. Ils sont envoyés chez les Salésiens de Don Bosco, dans une école, avec des musulmans uniquement, enfin tous les enfants sont musulmans, tout le personnel est musulman, tout le monde est musulman. Ils n'étaient jamais allés à la messe, jamais auparavant. Ils sont partis, ça va faire 2 ans qu'ils sont sur place. Ben, ils font un énorme chemin de foi, de découverte de l'Église, d'approche du christianisme. C'est magnifique de les voir cheminer. Alors peut-être que ça n'ira pas plus loin, peut-être qu'ils ne demanderont pas le baptême, hein, certainement, mais ils ont découvert l'Église, ils ont découvert le Christ, je dirais surtout, plus que l'Église. Ils ont découvert l'Évangile. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Et je pense que chacun fait un chemin de foi À partir du moment où il va rencontrer l'autre, il est confronté à une culture différente et il est obligé de se positionner par rapport à sa propre recherche. Alors ceux qui sont chrétiens, ils vont approfondir certainement en découvrant une église différente, parce que l'église qui est en France, ce n'est pas la même que l'église qui est au Togo, au Pérou, au Maroc, hein, ou ça peut être en Asie, on en voit aussi aux Philippines, quel que soit le pays, l'église est très très différente. Et du coup, on est confronté aussi à notre propre foi, à notre propre démarche religieuse. Et donc, il y a un beau chemin qui se fait.
Il y a un beau chemin. Amaya, quel fruit avez-vous bénéficié, avez-vous récolté, avez-vous reçu pendant cette mission humanitaire?
Déjà, je dirais la richesse des échanges qu'on avait avec notamment les familles, parce que moi, j'étais hébergée donc, avec ma co-volontaire dans une famille du village. Et on était vraiment baignés dans la culture et dans toutes les habitudes des villageois. On était vraiment vivait comme eux dans leur maison. On avait la chance d'avoir une chambre chacune. Et c'est vrai que c'est une très belle découverte, je trouve, d'être accueillie comme ça dans une famille vraiment du village. Donc ça, je pense que c'est un des plus gros fruits vraiment que j'ai récolté suite à cette mission. Après, on a vraiment appris aussi à vivre le moment présent, parce que c'est vrai que c'est un pays, en tout cas, où ils vivent les problèmes, on va dire, assez différemment de nous. Il y a toujours des solutions. Et des fois, ça ne se passe pas comme on a envie que ça se passe, mais ce n'est pas pour autant que c'est mal. Et c'est vrai que c'était un bel apprentissage de vivre à leur côté et de vivre vraiment le moment présent, beaucoup plus sans se projeter et se faire du souci pour ce qui va arriver après. Eux, c'est vraiment, on est dans le moment présent et tout ira bien. Et puis aussi l'anglais, parce que moi je suis pas très très forte en anglais. J'ai été envoyée pour être professeure d'anglais.
Oui, c'est quand même paradoxal.
Mais donc j'étais assez surprise au début. Il faut savoir qu'avec l'IMEP, on choisit pas notre mission ni le pays où on est envoyé. Et ce village là au Népal, c'est un village où le niveau d'anglais est assez bas. Donc bon, malgré mon niveau qui n'était pas très haut, je pouvais leur donner des cours. Mais donc je suis repartie avec un meilleur niveau d'anglais aussi. Donc je le considère comme un fruit aussi.
Oui, c'est un bénéfice en tout cas.
De cette mission.
Oui. Marie?
Alors nous, le plus grand fruit, je pense que ça a été la joie de la mission et la joie de ce peuple malgache, qui sont vraiment heureux dans toutes les situations. Ça nous a vraiment marqué, alors qu'ils vivent vraiment avec pas grand-chose. Le tout petit village où on était envoyé, c'était vraiment très, très pauvre et très rustique. Et pourtant, la joie était présente. Donc ça, c'était un grand fruit pour nous. Et aussi, la notion de simplicité. Là, on essaie encore de... On essaie de l'appliquer un peu au quotidien, mais vraiment, on bénit un petit peu là-dedans, dans la simplicité. Et pareil qu'Amaya, le fait de vivre au jour le jour, de faire confiance aussi, de ne pas trop anticiper et tout, de lâcher prise un petit peu. Voilà, ça a été quelques fruits de la mission.
En tout cas, ça va à l'encontre de ce qu'on vit, dans notre société. Hein. Oui. Pierre-Julien, vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à tous ces fruits qui ont été déjà partagés dans les missions?
Pour parler de mon expérience, ce que j'ai pour résumer, c'est que quand j'étais là-bas, notamment au Congo et puis au Tchad, j'avais l'impression que c'était là qu'il fallait que je sois. Et donc, je ne me posais plus trop de problèmes. Et ça, c'est quand même une richesse, quoi.
C'est
se reposant. Sentir...
à sa place, finalement.
Je suis là et puis c'est là qu'il faut que je sois. Donc... Et en revenant, on n'a pas encore abordé la question, mais j'ai pris contact avec ATD Carmonde, parce qu'à l'époque, dans une autre vie, j'avais participé à une bibliothèque de rue à la Cité Raphaël, près de Toulouse. Et depuis, je participe à une bibliothèque de rue à la Cité du Parc, au Mirail, avec des enfants qui sont tous migrants, de familles migrantes. Et là, je me retrouve aussi à mon aise. Je garde le lien avec ce que j'ai vécu là-bas. Oui.
On va parler quand même des difficultés, parce qu'il y en a dans toute mission. Il ne faut pas se le cacher. Sœur Pascale, quelles difficultés vous voyez chez les personnes que vous accompagnez, les volontaires que vous accompagnez au Maroc, ou ceux qui viennent de l'étranger et qui viennent ici?
Alors, je n'accompagne pas les volontaires de l'étranger ici en France, mais je pense que c'est le même type. Voilà. Moi, ceux qui sont au Maroc, j'accompagne. Alors, la difficulté, c'est que la plupart n'ont pas choisi de venir au Maroc. On ne choisit pas le lieu où on part. On est envoyé dans un lieu. Et donc, on peut se retrouver au Maroc. On avait le désir profond de partir en Amérique du Sud et on s'est retrouvé au Maroc. Bon. Mais en soi, ce n'est pas forcément ça qui est le plus difficile. C'est que, de toute façon, tout volontaire, il passe par le creux de la vague. À un moment ou à un autre, au début, tout est beau, tout est merveilleux, tout est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis, un jour, c'est la catastrophe, quoi. Hein. C'est-à-dire, rien ne va plus, la France me manque, ma famille me manque, je n'arrive pas à les joindre, WhatsApp, ça ne fonctionne pas. Et puis, on n'a pas le même rapport au temps. Et puis,
je voudrais faire quelque chose et j'arrive pas à avancer.
Voilà, et puis c'est difficile, on travaille pas du tout de la même façon. C'est la rencontre interculturelle qui est complexe. Et du coup, tout volontaire le vit. Et tous, où qu'on soit envoyé, on le vit. Hein. Et du coup, comment est-ce qu'on accompagne ça? Eh ben, moi, je téléphone. C'est le rôle du chargé de mission. J'appelle les volontaires. Je sais qu'au bout d'un mois, je les appelle parce qu'il faut les appeler au bout d'un mois où tout est encore tout beau, tout neuf. Et puis, ils me disent non, c'est pas la peine d'appeler. Mais bon, au bout de deux mois, j'appelle. Et généralement, au bout de deux mois, c'est un peu moins beau. Et puis, quand ils sont au creux de la vague, eh ben, on appelle un peu plus souvent. On discute, on pose les choses. Quelquefois, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Il y a des difficultés avec le partenaire, donc on essaye de résoudre, mais ça peut être des difficultés professionnelles. Ils sont partis pour leurs compétences professionnelles. Donc, ils sont ingénieurs, on les envoie sur un poste d'ingénieur ou un poste de formateur en industrie, enfin, ou selon leurs compétences. Mais ce sont d'autres façons de faire. Je vois même une comptable, elle est partie comme comptable à l'évêché à Rabat. Elle est comptable de formation, mais la comptabilité au Maroc, ce n'est pas la même que la comptabilité en France. Et donc, on va se retrouver avec des difficultés professionnelles. Il faut en parler, tout simplement. Et c'est vraiment par le dialogue, par la parole qu'on arrive à résoudre. Mmh. Après, on peut proposer un accompagnement. On a quelques coachs professionnels qui acceptent d'accompagner quand vraiment il y a des difficultés. On propose un accompagnement spirituel aussi, à distance, à ceux qui le désirent. Et puis, un accompagnement psychologique aussi, pour ceux qui en ont le besoin. Donc, on a des psychologues, des coachs pros et puis des accompagnements spirituels qui sont proposés.
D'accord. Donc, les volontaires ne restent pas seuls. Marie, vous avez expérimenté certaines difficultés dans votre mission ?
Oui. Alors, nous, la plus grande difficulté pour nous, c'était au niveau du climat, c'était vraiment la chaleur. C'était hyper dur pour nous parce que on était dans... Enfin, les 4 mois où on était, la chaleur ne redescendait jamais, même la nuit. Donc, c'était un peu... Ça, c'était le plus difficile pour nous, vraiment, de continuer à vivre malgré 36, 38 degrés, tous les jours, même la nuit.
Mais après, vous avez connu cette espèce de lune de miel au début, puis après, cette grande chute, ce manque de motivation, ou en tout cas des difficultés.
Nous, oui, on l'a vu un petit peu, cette vague, mais ça a été un petit peu... Enfin, c'était pas exactement dans le même ordre. Nous, ça a été plus au tout début, comme c'était une ouverture de mission.
Il fallait mettre les choses en place.
Voilà, et ça n'a pas été facile. Et après, ça allait beaucoup mieux parce que tout était mis en place. Et puis, les villageois, enfin, certains n'avaient jamais vu de blanc, jamais. Et donc, nous regardaient vraiment de la tête aux pieds. Le village s'arrêtait dès qu'on se baladait. Enfin, voilà, les 2-3 premières semaines, c'était un peu difficile. On se sentait pas trop à notre place. Et en fait, petit à petit, on a appris le malgache très vite. Et on allait au marché les voir tous les jours, tous les matins. Enfin, voilà. Et donc, finalement, cette difficulté, elle est très vite passée. Ouais. Et après, ça allait beaucoup mieux, toute la mission. Et voilà. Et pour la chaleur, on s'y est habitué. Mais quand même pas tant. Enfin,
il faut s'adapter, oui. Amaya, quelques difficultés aussi rencontrées dans votre mission?
Oui. Alors moi, ce qui était difficile au début aussi, c'était un peu l'isolement. Parce que c'est un village qui est accessible qu'à pied. Et il y a... à peu près 4-5 heures de marche du premier village où les voitures vont. Et après, donc, on a 4-5 heures de marche pour accéder au village. Donc, on était vraiment entre 4 montagnes et puis c'est tout.
Donc, c'est l'isolement qui vous a particulièrement pesé?
Et ça, c'était un peu compliqué au début, d'avoir juste ces 4 montagnes et puis de voir que l'école remontait à la maison avec notre famille et puis juste ça. Au début, c'était un peu compliqué. Et puis, la langue aussi. Parce que ils parlaient tous népalais ou le dialecte du village. Donc nous, on avait appris quelques petits mots en népalais, mais certains, les grands-parents le comprenaient pas forcément parce qu'ils connaissaient que le dialecte du village. Bon, après, on apprend vite à communiquer avec des gestes. Enfin, on arrive à se comprendre. Mais après aussi l'anglais et donner des cours. Moi, c'est ce qui a été le plus compliqué, je dirais, au début de ma mission, vraiment de me sentir légitime à donner des cours d'anglais en n'ayant pas un niveau incroyable. Et puis savoir comment
transmettre finalement votre savoir.
avec des classes où c'est des enfants qui ont quand même du mal à se poser, à écouter. Et puis bon, après, en fait, on se rend compte que on n'est pas là pour les rendre tous bilingues et que c'est pas grave si on fait des erreurs et que c'est plus en fait notre présence qui est importante, c'est les échanges qu'on peut avoir. Et puis en fait, rien que jouer avec eux, c'est déjà très bien. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au début, on a envie de faire vraiment bien et on a un peu nos idées dans la tête. Et puis on se rend compte en arrivant sur le lieu de mission que ce qu'on pensait faire, en fait, ça va pas forcément être possible et il faut revoir un petit peu.
En expérience, c'est limite.
C'est ça.
Ouais. En tout cas, à vous entendre, on se rend bien compte que ces difficultés ne sont pas insurmontables. Et d'ailleurs, Sœur Pascale, vous l'avez bien dit, hein, partout l'accompagnement. On va quand même parler de ce retour parce que vous, Pierre, Julien, vous êtes partis 3 fois et à chaque fois, vous êtes revenus puis repartis. Ça se passe comment le retour ? Il y a une phase de déphasage, il y a une phase d'euphorie parce que vous voulez partager ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous diriez?
Le retour, c'est jamais facile parce que moi, j'aime pas trop rentrer en France, que je préfère être là-bas. Et puis, je suis choqué par ce que je trouve, quoi. Quand je vais
vous voyez
dans
un
certains magasins, tout ce qu'il y a, et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est ce hiatus entre ce qu'on connaît en Afrique et puis... ce qui se passe en France.
Oui, c'est ça.
C'est ça surtout.
C'est ça qui est difficile.
Qui m'est difficile, oui.
Marie, quand vous êtes revenue avec votre mari Benoît de cette mission au Madagascar, qu'est-ce qui a été. Comment vous avez atterri finalement?
Alors pour nous, ça a été un peu plus facile parce qu'on était deux. Et donc en fait, c'est génial d'avoir une personne qui nous comprend exactement. Donc c'est vrai que quand on sentait qu'on n'était pas très bien compris ou que les gens étaient très contents pour nous, mais on savait qu'ils étaient à milieu de comprendre, ben on en discutait et là ça allait tout de suite mieux. En fait, le fait de rentrer à deux quand même, c'est beaucoup plus facile, je pense, que tout seul. Et après, on a vite été remis dans le train de la vie. Benoît avait trouvé un travail, enfin voilà, fait des entretiens déjà à Madagascar. Donc en fait, voilà, ça a été plutôt facile pour nous, mais parce qu'on était... en couple, je pense.
Et vous, Amaya, donc vous êtes partie seule ?
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est assez particulier. J'avais l'impression de revenir en France et que de ne pas vraiment avoir vécu cette mission. Enfin, je savais que je l'avais vécu, mais le fait que personne ne comprenne
et ne la partage,
c'était assez particulier. Après, j'ai eu la chance quand même de partir avec 2 autres volontaires, mais eux, ils étaient sur Paris, moi, je suis dans le sud. Donc, on se revoit de temps en temps, mais c'est vrai que dans mon quotidien, la famille, les amis... c'était particulier, mais je suis rentrée après l'été, donc c'est vrai que j'ai vite aussi été prise dans tout le tourbillon un petit peu de la vie en France, et donc j'étais contente aussi de retrouver ma famille, mes amis, et c'est plus au bout de quelques mois où je dirais où là c'était un peu plus compliqué le retour, et cette bulle un petit peu de la mission me manquait, et puis les habitudes qu'on avait créées avec la famille, tout ça, donc ouais, je dirais que c'est... j'étais contente de rentrer en France, mais après...
Il y avait un petit manque quand même.
Oui, quand même.
C'est ça. Alors évidemment, tous ces sujets qu'on a abordés, et malheureusement trop rapidement aujourd'hui, vous allez y revenir hein, pendant cette journée du 24 mai. Une journée consacrée au volontariat sans frontières. Elle commence à 15h et donc ce sera à l'espace Filoté. Elle va être l'occasion d'écouter des témoignages, de prier ensemble, de partager des moments de convivialité. Qu'est-ce que vous voulez vivre vraiment à travers cet après-midi, Sœur Dolorès et Pierre Philippe Osina?
Eh bien, en fait, ils sont au cœur de la mission universelle et quelque part, par cette rencontre, ils vont pouvoir justement encore témoigner et apporter toute cette espérance et cette lumière qu'ils portent encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui sont revenus. Et vraiment, on ne peut qu'inviter donc toutes les personnes qui ne connaissent pas et qui sont curieuses, donc de vraiment... ils auront l'occasion de poser des questions, ça sera ludique, ça sera vraiment à la portée de tous. Et je crois que on attend vraiment de cette rencontre.
Donc avec des personnes qui peuvent s'interroger sur un départ en mission ou pas.
Voilà, tout à fait.
Et qui peuvent venir écouter et échanger avec les volontaires.
Voilà.
Ouais. Donc une journée qui commence à 15h avec des témoignages, la messe, un repas partagé. Sœur Dolorès, qu'est-ce que vous voulez ajouter ?
Oui, c'est les volontaires qui agissent, mais quand même les OPM, c'est le soutien. En même temps, nous, quand...
Les OPM, ce sont...
Soutien pour les uns les autres.
Ce sont les œuvres
pontificales missionnaires.
Oui, œuvres pontificales missionnaires. Et la mission universelle de l'Église. Ensemble, nous travaillons. Ils servent la mission de l'Église dans le monde. C'est très important pour annoncer l'Évangile. C'est le but de l'OPM. Ça continue par les volontaires, comment elles sont vécues et témoignées, et les prier, et comment elles témoignaient leur vie avec les pauvres et avec les autres.
Mmh. Donc voilà une belle journée à laquelle il ne faut pas hésiter à participer. Donc je rappelle, c'est le 24 mai au village Filoté dès 15h. Elle est ouverte à tous. Il n'y a pas d'inscription préalable. Donc, c'est ouvert. Voilà. Merci beaucoup à chacun, Sœur Dolorès et Philippe Osina, pour la mission universelle du diocèse de Toulouse. Marie de Langalerie et votre mari Benoît, on sait qu'il est un petit peu derrière, même s'il n'est pas là ce matin. Et à Maya Coutan pour les missions étrangères de Paris. Et puis, Sœur Pascale Bonnef et Pierre Julien avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Vous nous avez présenté cette belle aventure qu'est la mission humanitaire et le défi de son retour. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.